Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous allons examiner cette question d'assurance, l'assurance du salut. Nous lançons en quelque sorte notre étude à partir de 2 Pierre. Alors voulez-vous peut-être ouvrir votre Bible à 2 Pierre, chapitre 1. Et nous ferons juste une petite étude biblique ce soir ensemble, qui n'est pas vraiment dans 2 Pierre, mais nous allons l'utiliser comme point de départ, de toute façon. Dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 10 et 11 mettent en quelque sorte le sujet à sa place. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Le verset 10 dit « Soyez donc diligents, assurez-vous de son appel et de votre choix ». Le sujet est donc l'assurance du salut, et nous avons noté qu'il y a essentiellement deux questions à se poser. Question numéro 1. Le salut est-il pour toujours? Est-il sécurisé? Question numéro 2. Puis-je ressentir cette sécurité? L'un est un fait, et l'autre est une confiance personnelle. Ils sont inséparables. Nous avons noté, dans notre étude, que si le salut n'était pas éternel, si le salut n'était pas assuré, alors il n'y aurait pas de discussion sur l'assurance. Car comment pourriez-vous être assuré d'un salut non sécurisé? Mais si le salut est éternel, et s'il est sûr, alors vous pouvez faire l'expérience de l'assurance. Revenons un instant à la question numéro 1. Est-ce que notre salut est éternel? En d'autres termes, une fois que vous avez appris la connaissance de Jésus-Christ, est-ce éternel? La réponse est, bien évidemment, oui. Il y a de nombreux endroits dans la parole de Dieu où cela est très clairement noté pour nous. Écoutez-en quelques-unes. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Si vous croyez, vous avez la vie éternelle, vous n'entrerez jamais en jugement. Vous êtes passé de la mort à la vie, et vous remarquerez qu'il n'y a pas de petit caractère. Dans Jean, chapitre 6 et verset 27, et nous revenons délibérément au tout début du récit évangélique, en regardant les évangiles eux-mêmes dans le Nouveau Testament, pour voir comment cet enseignement est fondamental. Jean 6, 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. En d'autres termes, nous n'avons pas affaire à quelque chose qui va et vient. Nous avons affaire à quelque chose qui vient et qui reste pour toujours. Elle ne périt pas. Elle perdure à la vie éternelle. Notre salut est pour toujours. Au verset 35 de Jean 6, Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Au verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Vous vivez pour toujours. Il n'y a pas de petit caractère. Le salut est pour toujours, très clairement. » Revenons dans ce chapitre, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Maintenant, nous savons, par l'enseignement de Jésus, que le salut est éternel. » Éphésiens, chapitre 1, nous amène à l'enseignement de Paul. Et le verset 11 dit, « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Dieu l'a prédestiné. Il l'a fait selon sa propre volonté. Et nous avons obtenu un héritage garanti. Rien ne peut l'enlever. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Nous avons un héritage, soit dit en passant, qui est impérissable, non souillé, qui ne disparaîtra pas. Il nous est réservé dans le ciel, et nous sommes protégés pour recevoir cet héritage. La main protectrice de Dieu assure notre salut pour toujours. Dans Jude 24, un autre verset. Et je ne vous en donne que quelques-uns que j'ai choisis. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible, et dans l'allégresse. Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Il est celui qui peut vous garder et vous faire tenir debout en sa présence. Il nous garde, il nous sécurise, il nous a donné un héritage éternel que nous recevrons. Il n'y aura aucune perte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, 1. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ. Personne ne peut porter la moindre charge sur les élus de Dieu, dit Romains chapitre 8. Ainsi, nous sommes en sécurité dans un salut permanent et éternel. Écoutez la fin de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous dites, « Je voudrais cela, c'est certain. » Verset 24. « Celui qui vous appelait est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Fera quoi ? Il vous préservera, corps et âme, sans blâme, à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ces passages nous rappellent simplement que notre salut est éternel. Donc une fois que vous êtes sauvé pour toujours. La deuxième question, celle qui nous préoccupe, est « Puis-je me sentir en sécurité ?» Nous reconnaissons qu'il est possible d'être en sécurité et de ne pas le ressentir. Il est possible d'avoir le salut éternel et de ne pas en profiter. Mais la question est, puis-je être assuré? Maintenant, nous avons passé 3 semaines à comprendre pourquoi les personnes véritablement sauvées ne se sentent pas en sécurité. Et nous avons dit qu'il y avait plusieurs raisons. Premièrement, une forte prédication de normes élevées de sainteté peut rendre les personnes insécurisées, surtout si elles pêchent. Une autre raison. Certaines personnes ne peuvent pas accepter le pardon. Certaines ne comprennent pas correctement la plénitude de l'Évangile. Certaines ne se souviennent pas de l'heure de leur salut. Ils se sentent donc en insécurité. Certaines ressentent la forte attraction de la chair et se demandent s'ils ont vraiment une nouvelle nature. Certaines ne reconnaissent pas la main de Dieu dans toutes leurs épreuves, et donc ils pensent que leurs épreuves sont la preuve qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. D'autres ne marchent pas dans l'esprit. Et certains désobéissent à la parole de Dieu. Ce sont les principales raisons pour lesquelles les personnes manquent de sécurité, même si elles sont éternellement sauvées. Maintenant, ce soir, je veux me tourner vers le côté positif, si vous le permettez. Avant d'entrer dans le texte du message de Pierre, que nous ferons dans quelques semaines, je veux que nous passions à 1 Jean. Car dans 1 Jean, nous avons une présentation très positive. Ce sont des tests objectifs, pour voir si je suis un vrai chrétien. Et si je passe ces tests, je peux jouir de mon salut éternel avec assurance. L'apôtre Jean, soit dit en passant dans cette épître, est préoccupé par le même problème. Il est préoccupé par le vrai salut. Il est préoccupé par l'assurance. Donc, dans sa première épître, il donne un certain nombre de tests que vous pouvez appliquer à votre propre vie. Et vous pouvez savoir que vous êtes vraiment sauvés. Certains d'entre eux, soit dit en passant, sont parallèles à ce que nous apprendrons dans 2 Pierre 1. Mais ils sont suffisamment distincts et exigent notre attention comme arrière-plan important pour comprendre le texte de la lettre de Pierre. Regardons donc 1 Jean et les tests d'assurance. Je vais les transformer en une série de questions, d'accord? Je vous donnerai, si le temps le permet, et nous irons très vite, 11 d'entre eux. Une série de questions qui nous plongent dans ce livre riche et nous conduisent à la joie de l'assurance basée sur la réalité que nous sommes sauvés. Ou bien, cela peut nous convaincre que nous ne sommes pas sauvés. Dans les deux cas, il accomplit son dessein, ordonné par Dieu. Première question. Et c'est, je crois, ce qui est dans le cœur de Jean, pendant qu'il écrit. Question numéro 1, pour vous demander si vous voulez entrer en contact avec la réalité de votre condition spirituelle. Avez-vous apprécié la communion avec Christ et le Père? C'est un élément essentiel du vrai salut. Regardez avec moi au chapitre 1, verset 2. Jean écrivant sur la parole de vie, la révélation de Dieu dit « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, et là il veut dire Christ, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Maintenant, évidemment, il va au-delà de la simple connaissance terrestre qu'il avait avec Jésus, parce qu'il n'avait pas une telle connaissance terrestre avec le Père. Donc, à la fin du verset 3, quand il dit « Notre communion est, et pas était, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ », il dit « Je suis actuellement en train de jouir de la communion avec Christ et le Dieu vivant. » C'est un élément de l'expérience, des véritablement sauvés. Le chapitre 5, verset 1, nous indique une autre référence qui parle du même problème. Il est dit au verset 1 « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Jean dit qu'il est caractéristique d'un croyant d'aimer Dieu et d'aimer Christ. Cela parle à nouveau de relation. Nous sommes en communion avec Christ. Nous sommes en communion avec Dieu. Nous aimons Dieu. Nous aimons le Christ. Au verset 4 « Parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire régénéré, né de nouveau, racheté, sauvé, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Lorsque vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous placez votre foi en lui, votre foi en Dieu. Vous surmontez le monde dans le sens où vous entrez dans un nouveau niveau de communion. Vous ne communiquez plus avec votre point de contact prioritaire, avec le monde, mais vous communiquez avec le Dieu vivant dans une relation d'amour. Je crois vraiment que Jean ici nous fait remarquer qu'il est caractéristique, typiquement, des vrais croyants d'avoir une communion amoureuse, continue avec Christ et Dieu. C'est essentiel. C'est fondamental pour le salut. En fait, dans 1 Corinthiens 1:9, Paul écrit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Galates 2:20 dit que le Christ vit en moi, dans une union très intime de vie commune. Maintenant, la pensée que si vous êtes chrétien, vous partagez la vie avec Christ, vous partagez la vie avec Dieu, vous communiez avec eux, vous avez une relation avec eux. Mais il y a quelque chose de très expérientiel à ce sujet. Ce n'est pas seulement un fait que nous avons une vie divine vivante en nous. Il y a une expérience à vivre ici. Permettez-moi de vous rappeler un verset. Vous vous souvenez de Jean 10:10, où Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient comment ? Dans l'abondance. » Que voulait-il dire par là ? S'il venait de dire « Je suis venu pour que tu puisses avoir la vie », nous pourrions dire « Il a mis sa vie éternelle en nous ». En d'autres termes, il y a une nouvelle création, une nouvelle nature. Nous possédons la vie de Dieu dans l'âme de l'homme, et c'est un fait. Mais quand il a ajouté « Et qu'elle soit dans l'abondance », il a commencé à parler d'un genre de vie superabondant, et je pense qu'il est entré dans la dimension de l'expérience. Une vie riche, une vie qui nous fait expérimenter la joie, la paix, l'amour et le but. Chaque fois que vous entendez quelqu'un dans les eaux du baptême témoigner de sa venue à la connaissance de Jésus-Christ, il ne s'arrête pas et dit « Je suis sauvé, et je suis juste ici pour annoncer le fait ». Invariablement, ils vous décriront le sentiment, ils vous décriront l'expérience de l'amour, de la joie, de la paix, du pardon, du but et de la direction dans la vie. C'est l'élément surabondant de cette vie éternelle. Le Dieu de tout confort, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui pourvoit tous vos besoins, selon ses richesses, dans la gloire par le Christ Jésus, le Dieu dans la communion duquel nous sommes amenés à nous parler dans des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant et faisant de la mélodie dans nos cœurs, le Dieu à qui nous venons crier, Abba Père, comme un petit enfant à celui qui l'adore, le Dieu vers lequel nous nous approchons en temps de détresse pour chercher miséricorde, c'est le Christ en qui nous trouvons notre consolation et notre réconfort, dans l'amour dont nous nous délectons, le Christ dont nous possédons et apprécions la paix. Ce sont les expériences d'une vie abondante, ce sont les éléments de la communion, ce sont ces choses qui nous enrichissent tellement. Les avez-vous expérimentées ? Avez-vous vécu la communion avec le Christ dans toute sa richesse ? Avez-vous fait l'expérience de la communion avec Dieu ? Avez-vous senti sa présence ? Avez-vous fait l'expérience de ce qu'il exerce par son esprit? Avez-vous dans votre cœur un amour pour le Christ et un amour pour Dieu qui vous attire vers leur présence? C'est la question pour commencer. Avez-vous expérimenté leur pouvoir de témoignage? Avez-vous vécu la douce communion de la prière à genoux, la joie exaltante de parler au Dieu vivant? Avez-vous ressenti le sentiment de grâce rafraîchissant, presque écrasant, qui vous vient à l'esprit lorsque vous découvrez une vérité nouvelle et riche dans la parole? Avez-vous connu la bénédiction lors du jeûne en présence de Dieu? C'est la communion. Si vous avez fait l'expérience de ces choses, alors vous avez une communion avec Christ, et vous avez une communion avec Dieu. C'est la communion du salut. Puisque le vrai salut est assuré, vous pouvez profiter de votre assurance. Deuxième question. J'ai le sentiment que nous arrivons à mi-chemin. Tout va bien. Question 2. Êtes-vous sensible au péché? Revenez un instant au chapitre 1. Ceci est une partie très importante de l'Écriture. Chapitre 1, verset 5 dans Jean. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Maintenant, le point et le message que le Seigneur nous a envoyé concerne lui-même. Le message est que Dieu est absolument sans péché, absolument saint, absolument parfait, n'a pas de défaut, pas de péché, pas d'ignorance. Il n'y a pas, littéralement en grec, un seul morceau d'obscurité en lui. Voilà la vérité fondamentale de la section. Immédiatement, nous arrivons au verset 6. Suivez ce que je lis. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. En d'autres termes, si Dieu est lumière, toute lumière et rien que lumière, et que nous marchons dans les ténèbres, alors il n'y a pas de communion avec lui. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Maintenant, vous avez un contraste très clair, et je veux que vous le suiviez. C'est une vérité fondamentale que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a pas un seul morceau d'obscurité. Pourtant, il y a des personnes qui prétendent être en communion avec Dieu. Elles prétendent être en communion avec Dieu, mais leur revendication ne tient pas la route. Au verset 6, veuillez noter, ils disent « Nous avons une communion avec lui ». Elles prétendent avoir une communion avec Dieu. Verset 8. Elles prétendent également n'avoir aucun péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Il y a des personnes qui prétendent n'avoir aucun péché. Puis au verset 10, c'est incroyable, elles prétendent ne jamais avoir péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Voici donc certaines personnes qui disent « Oui, nous connaissons Dieu, nous communions avec Dieu, nous marchons avec Dieu. » Mais la vérité est qu'il marche dans le péché et catégoriquement le nie. Il y a beaucoup de personnes qui sont si complètement inconscientes qu'elles pensent qu'elles marchent dans la lumière alors qu'elles marchent dans les ténèbres, prétendent n'avoir aucun péché ou ne pas avoir péché du tout. Il est caractéristique qu'une personne non régénérée et incroyante soit totalement inconsciente de la condition du péché dans sa vie. C'est ce que Jean veut dire. L'homme au verset 6 ne confesse pas le péché parce qu'il ne pense pas que ce soit nécessaire. Il ne le reconnaît même pas. Il marche simplement dans l'obscurité, en pensant qu'il communique avec Dieu. L'homme au verset 8 ne confesse pas le péché parce qu'il pense avoir atteint un état où il n'a pas de péché. L'homme au verset 10 ne confesse pas le péché parce qu'il ne l'a jamais confessé, ni reconnu le péché. Trois mots décrivent ces trois points de vue. Le premier mot, verset 6, est ténèbres. Le deuxième mot, verset 8, est tromperie. Et le troisième mot, verset 10, nous mettons de la diffamation, parce que vous faites de Dieu un menteur, puisque Dieu dit que vous avez péché. Voici donc des personnes qui prétendent être chrétiens, mais qui sont totalement insensibles à la réalité de leur péché. D'une part, elles pensent qu'elles peuvent continuer à pécher, marcher dans l'obscurité autant qu'elles veulent, même ne pas le reconnaître, et avoir encore de la communion avec Dieu. D'un autre côté, elles peuvent tout à fait le nier, et penser qu'elles peuvent marcher et avoir une communion avec Dieu. Elles sont totalement insensibles à la réalité de leur condition. La vérité est qu'elles ne connaissent pas Dieu. Elles ne pratiquent pas la vérité. Elles se trompent. La vérité n'est pas en elles. Elles font de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en elles. Prenez un non-croyant. une personne qui n'est pas sensible à son état de péché. C'est pourquoi nous disons toujours lorsque nous prêchons l'Évangile, que devons-nous prêcher en premier? Le péché de l'homme. Maintenant, d'un autre côté, revenons en arrière et prenons les autres versets. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, en d'autres termes, si nous marchons dans une voie vertueuse, nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement, soit dit en passant, fait référence à Dieu, pas aux autres croyants. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est la marche vraiment salvatrice, comme modèle de vie dans la lumière. Ceux qui sont vraiment sauvés, regardez le verset 9, ne nient pas leur péché. Ils croient, ils le confessent, et Dieu est fidèle et juste pour continuer à pardonner et à purifier. Nous pouvons donc dire que le vrai croyant marche toujours dans la lumière et confesse toujours les actes des ténèbres qu'il fait dans la lumière. Il a un bon sens du péché. Il sait que s'il veut communier avec Dieu, il doit être saint. Il doit marcher dans la lumière. Il sait que lorsque le péché se produit dans sa vie, il doit être confessé. Puis au chapitre 2, verset 1, Jean dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. » Le verset 1 du chapitre 2 dit que vous n'avez pas à pécher. Il y a une nouvelle liberté ici. Il dit « Je vous écris pour vous dire, vous ne devez pas pécher. Je ne veux pas que vous péchiez. Vous n'avez pas à le faire. Mais si vous le faites, il y a le pardon. » Le vrai croyant, tout d'abord, reconnaît qu'il doit marcher dans la pureté s'il veut communier avec Dieu. Il reconnaît ensuite que lorsqu'il pêche, il doit l'avouer. Il reconnaît, troisièmement, qu'il n'a pas à pécher. Mais quand il pêche, il sait à qui s'adresser. L'avocat Jésus-Christ. Le point est le suivant. La personne qui est vraiment sauvée est sensible aux réalités pécheresses de sa vie. Dans Romains 7, Paul dit « Je sais ce qui est en moi. Il y a une loi qui travaille en moi, et elle s'appelle la loi, ou le principe du péché. J'en suis très conscient. Est-ce que cela vous décrit? Êtes-vous sensible au péché? Êtes-vous très conscient de la bataille spirituelle? Réalisez-vous très clairement que pour avoir une vraie communion avec Dieu, vous devez vivre une vie sainte et marcher dans la lumière. Vous ne pouvez pas marcher dans les ténèbres et revendiquer la communion avec lui. Êtes-vous prêt à reconnaître le péché comme une réalité dans votre vie et à le confesser? Vous rendez-vous compte que vous n'avez pas à pécher, mais si vous le faites, vous allez voir l'avocat Jésus-Christ. Êtes-vous sensible à cela? Comme Paul dans Romains, criez-vous parfois, « Ô misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Parce que vous êtes si las du fardeau du péché dans votre chair. Si cela vous décrit, alors vous avez un salut qui est éternel. Si vous avez ce salut qui est éternel, vous êtes en sécurité. Alors vous pourriez aussi bien en profiter et être assuré. Troisième question. Êtes-vous obéissant à la parole de Dieu? Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Maintenant, cela ne pouvait pas être plus clair. Parce que nous savons, nous percevons par l'expérience. Cela semble être la force du ginosko, le verbe. Par cela, nous savons expérimentalement. Nous savons quoi? Nous avons appris à le connaître. Qu'est-ce que c'est? Le salut. Comment savons-nous que nous sommes sauvés? Par cela, par quoi? Si nous gardons ses commandements. Si vous voulez savoir si vous êtes un vrai chrétien, demandez-vous si vous obéissez aux commandements de la parole de Dieu. Lorsque les disciples ont été envoyés en mission, allez dans le monde entier et faites des disciples, a dit Jésus, en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. L'obéissance aux commandements de Dieu produit une assurance. Le mot « garder » ici est un mot d'obéissance observatrice, d'obéissance vigilante, attentive et réfléchie. Cela implique non seulement l'acte d'obéissance, mais ce que j'aime appeler l'esprit d'obéissance, la volonté, la sauvegarde habituelle de la parole, non pas en lettres, mais en esprit. Soit dit en passant, les commandements ne sont pas des nomos, pas le mot typique pour la loi. Jean utilise ce mot 15 fois dans son évangile, mais ici, c'est le mot entolé, qu'il utilise 14 fois pour les préceptes du Christ. Donc les commandements ici sont vraiment des préceptes, des ordres, des normes de Christ. Il demande plus qu'une obéissance légale à une alliance de travail. Il appelle à une obéissance gracieuse par l'alliance de la grâce. L'obéissance légale, d'ailleurs, exigeait la perfection ou la peine. L'obéissance gracieuse accepte l'échec sans pénalité à cause de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est donc cette gracieuse obéissance qu'est l'appel. Si vous voulez savoir si vous êtes chrétien, regardez votre vie. Protégez-vous les commandements, afin de pouvoir leur obéir. Suivez le verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu », c'est une affirmation, vous le dites. Mais celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. C'est une fausse affirmation. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Par quoi? Garder sa parole. Encore une fois, l'obéissance habituelle. Cela signifie que l'amour de Dieu est entré en lui et l'a poussé vers l'obéissance. Comment pouvez-vous reconnaître un vrai chrétien? Pas par sentiment. Pas par sentiment mystique, mais par obéissance. Si vous désirez obéir à la parole de Dieu, si quand vous la lisez, c'est le désir de votre cœur de le faire, si votre désir n'est pas seulement un désir légal de peur, mais un désir d'amour à cause de Christ, si vous voyez ce désir apparaître dans un modèle d'obéissance, non pas dans la perfection, mais dans un modèle d'obéissance, alors vous êtes sauvé. Si vous êtes sauvé, vous l'êtes pour toujours. Si vous avez un salut éternel sûr, vous pourriez aussi bien en profiter. Quatrième question. Demandez-vous ceci. Rejetez-vous le monde, le système. Chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, quand il utilise le terme amour, il parle de nos contraintes les plus profondes, de nos émotions les plus motivantes et les plus convaincantes. Il dit franchement que les chrétiens ne ressentent pas cela envers le système de Satan, le cosmos. Il est impossible pour un chrétien d'aimer le système de Satan. Il est aussi impossible que la lumière vive dans l'obscurité. Il est impossible que l'amour pour Dieu coexiste avec l'amour du monde. Maintenant, nous parlons du monde, nous parlons de tout son mal, de tout ce qu'il contient. Revenez au verset 13. « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin, se référant deux fois au malin. Le malin a conçu un système que la Bible appelle le monde, le cosmos, l'ordre, le système de Satan. Cela englobe la fausse religion, le crime, les philosophies impies, la vie impie, le péché sexuel, l'ivresse, le matérialisme et ainsi de suite. Quand vous devenez chrétien, vous n'aimez pas cela. Vous détestez vraiment cela. Parfois vous êtes attiré, mais ce n'est pas ce que vous aimez, c'est ce que vous détestez. C'est pourquoi il est si étonnant qu'un chrétien puisse faire ce qu'il déteste et non pas ce qu'il aime. C'est encore Romains 7, n'est-ce pas? Ce que je déteste, je le fais. Une nouvelle vie en Christ plante en nous l'amour de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, dit-il au verset 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde est là, mais le vrai croyant, qui a la vie éternelle, et demeurera pour toujours, n'y est pas impliqué. Il peut être aspiré de temps en temps, attiré de temps en temps, mais son amour est envers Dieu. Rejetez-vous le monde? Le rejetez-vous? Rejetez-vous ses fausses religions, ses crimes, ses philosophies impies, sa vie impie, son péché sexuel, son ivresse, son matérialisme, toutes ces idéologies fausses et accablantes? Rejetez-vous toutes ces choses? Aimez-vous Dieu? Aimez-vous sa vérité? Aimez-vous son royaume? Et aimez-vous ce qu'il représente? Vous ne faites pas cela normalement. Vous ne le faites pas naturellement. Naturellement, les hommes aiment les ténèbres, et ils suivent leur père, le diable. Alors demandez-vous, rejetez-vous le monde? Si vous rejetez le monde, cela indique une nouvelle vie en Christ. Puisque la nouvelle vie en Christ est éternelle, si vous avez le salut, vous avez un salut éternel. Vous pourriez aussi en profiter. Cinquième question. Et c'est une question tout aussi importante. Aimez-vous Christ afin d'attendre avec impatience sa venue? Chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Ensuite, d'un autre côté, il y a des personnes qui pratiquent le péché et l'anarchie. Alors que dit Jean ? Il dit que si vous êtes un vrai chrétien, vous aurez une espérance dans votre cœur, et votre espérance sera fixée sur Christ. Cette espérance dans la venue de Christ purifiera votre vie. Aimez-vous le Christ pour que vous attendiez avec impatience sa venue, afin que quand il apparaît, vous pouvez être comme lui. Ceci est l'espérance bénie. C'est notre joie suprême. Paul dit dans Romains 8, « Toute la création gémit en attendant cette glorieuse manifestation des enfants de Dieu. » Trois choses que j'en dis. Il apparaît. Nous le voyons. Nous sommes comme lui. C'est cela votre désir. Êtes-vous comme l'apôtre Paul ? Dites-vous, j'attends avec impatience. Philippiens 3:20. Mais notre clé à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Attendez-vous cela ? Méprisez-vous le péché et la chair déchue ? Et aspirez-vous à être comme Jésus-Christ ? Pouvez-vous ressentir le frisson de ce que Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, 49 ? Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Pouvez-vous vous identifier et espérer avec les paroles de Paul à Tite, à la recherche de l'espérance bénie et de l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ ? Aimez-vous le Christ pour que vous attendiez avec impatience sa venue ? Et que cette ardente espérance est un pouvoir éthique, elle vous purifie. Si vous vous retrouvez, et je ne parle pas d'une sorte d'anticipation démesurée, où vous êtes irresponsable, mais lorsque vous vous retrouvez à la nostalgie de la venue de Jésus-Christ, c'est la preuve du salut. C'est une preuve d'une nouvelle nature. Lorsque vous vous sentez impatient d'être délivré du corps du péché, et d'être fait comme le Christ parfait, c'est la preuve du salut. Et si vous avez le salut, vous l'avez pour toujours. Donc vous pourriez aussi bien en profiter. Permettez-moi de revoir ce que j'ai dit. Première question. Avez-vous apprécié la communion avec Christ et le Père ? Deuxième question. Êtes-vous sensible au péché dans votre vie ? Troisième question. Êtes-vous un modèle de vie obéissant à la parole de Dieu ? Quatrième question. Rejetez-vous le système mondial ? Cinquième question. Aimez-vous Christ pour attendre avec impatience sa venue ? Si vous réussissez ces tests, c'est la preuve que vous avez le salut. Et puisque le salut est assuré, vous devez posséder une assurance. Jean écrit ces choses pour vous donner confiance. Regardez le chapitre 3, verset 21. Laissez-moi m'arrêter là. Jean dit, « Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons quoi ? De l'assurance devant Dieu. » Jean veut que nous fassions un inventaire. Si vous vous êtes posé ces 5 questions, sans même poser les 6 autres, et que votre cœur ne vous condamne pas, vous pouvez avoir confiance devant Dieu. Si vous pouvez dire, « Oui, j'ai apprécié la douce communion avec Christ. Oui, j'ai apprécié la communion avec Dieu. Oui, je suis très conscient que je ne peux pas marcher avec Dieu et avoir le péché dans ma vie. Oui, je reconnais et confesse mon péché. Oui, je me tourne vers l'avocat Jésus-Christ le juste. » Si vous pouvez dire, « Oui, j'ai un désir profond dans mon cœur d'obéir à la parole de Dieu. Je ne fais pas toujours ce que je dois faire, mais c'est ma passion de cœur. Oui, je rejette le système mondial. Je déteste ce que le monde représente. Je n'aime pas ce qu'il représente. Et oui, j'aime le Christ, et je désire ardemment le jour où je le verrai, et je pourrai être semblable à lui. » Si vous réussissez ces tests, votre cœur ne vous condamne pas. Vous pouvez avoir confiance en Dieu. Quelle joie de savoir que Dieu veut que nous ayons cela. Dieu veut que nous soyons assurés devant lui, comme le dit le verset 19 de ce même chapitre. Il veut que notre cœur soit assuré, que nous ayons confiance, car cela nous apporte une telle joie, une telle paix, et ainsi il nous pose des questions très claires, afin que nous discernions notre condition spirituelle. Je vous le dis aussi, si votre cœur vous condamne, que vous n'avez pas confiance, que vous n'avez pas d'assurance, alors donnez vraiment votre vie à Jésus-Christ, pour que vous le connaissiez véritablement. Inclinons-nous dans la prière. Père, nous te remercions encore pour cette instruction si claire. Nous continuons, Seigneur, à être exposés à la parole si claire, afin que nous puissions connaître notre condition spirituelle. Seigneur, tu ne voudrais jamais qu'il y ait le moindre doute à ce sujet, et nous pensons que, dans ce cas-là, tu le clarifierais. Merci pour l'instruction qui donne confiance aux sauvés et fait peur aux non-sauvés, afin que nous qui sommes vraiment sauvés, qui réussissons l'épreuve, nous réjouissions, et ceux qui échouent à l'épreuve se repentent et embrassent le Sauveur. Nous prions en son nom. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.